Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Bernard Anthony. Alors Bernard Anthony, vous êtes ancien député européen, vous êtes le président de la GRIF, vous êtes le directeur de Reconquête, vous avez une activité militante depuis des décennies en faveur de la défense de la France, des Français et des chrétiens, d'une manière générale. Dans cette défense des chrétiens, dans cette défense des libertés aussi contre le communisme, il y a la question de l'Ukraine, où vous venez de publier un livre très documenté, qui s'appelle « L'Ukraine face à Poutine, réplique à la désinformation du néo-stalinisme ». Pensez-vous, c'est ma première question, on va droit au but, cher Bernard Anthony, que dans cette affaire entre la Russie et l'Ukraine, il y a réellement une tentative de désinformation de staliniens pour défendre la Russie? Ça, c'est ma première question. Et elle sous-entend, est-ce que finalement, vous pensez que la Russie n'a pas changé et c'est resté encore la Russie stalinienne, en quelque sorte, avec son nouveau dirigeant, Vladimir Poutine, alors que beaucoup pensent que la Russie, maintenant, a complètement viré et qu'elle défend l'Occident? C'est ce que l'on entend parfois chez certains.
Poutine lui-même affirme dans de grandes envolées que l'ennemi, c'est l'Occident.
Oui, ce que je voulais vous dire par là, et ce que j'entends aussi, c'est qu'il défend certaines valeurs et que l'Occident n'incarne plus ses valeurs. Voilà, c'est ce que j'entends là.
Oui, bien sûr. Mais écoutez, moi je sais en tout cas, vous en avez été témoin, que lorsque l'URSS s'est effondrée, j'ai dit et j'ai écrit dans mes livres sur le communisme que cela ne voulait pas dire que le communisme était mort. J'ai entendu des hommes politiques français, pour lesquels d'ailleurs je pouvais avoir de la sympathie par ailleurs, affirmer cette stupidité, le communisme est mort. Ben, il suffit d'être à Pékin aujourd'hui pour voir que autour du grand ami, entre guillemets, ou du grand allié, entre guillemets, de Poutine, Xi Jinping, eh bien, le communisme n'est pas mort, que la Chine est une immense puissance et qu'elle est aussi l'alliée de la Corée du Nord, donc d'un certain nombre de pays, donc qui relèvent, qui sont toujours sous la conduite de l'idéologie marxiste-léniniste. Mais passons. Je voudrais d'abord dire quelque chose. Je ne suis pas, pour ma part, du tout anti-russe. Si je suis tout à fait hostile à la politique de Poutine. Je pense qu'elle est dramatique, mais je ne suis pas anti-russe et pas davantage anti-orthodoxe. Je viens de terminer la lecture du remarquable ouvrage de Jean-François Colosimo, La crucifixion de l'Ukraine. Jean-François Colosimo est le patron des éditions du Seuil. Il est un orthodoxe. Et moi, je ne suis vraiment pas anti-russe parce que je me souviens de toute ma jeunesse militante avec le mouvement solidariste français, avec nos amis russes anticommunistes du NTS, avec Slavinsky, enfin je pourrais citer. Mais voyez-vous, j'ai hésité quelque temps dans l'analyse du personnage Poutine. J'ai hésité quelque temps, je me suis dit, mais oui, peut-être, après tout, c'est une sorte de Bonaparte, je ne vais pas ici évoquer toutes mes interrogations, mais je dois dire que mon interrogation finale, elle a été lorsque Poutine a dissous l'association mémoriale. Cette association immense pour la mémoire de la Russie, cette association fondée par l'académicien Sakharov. Donc là, interdiction. Et puis on a vu une évolution, et je me suis rendu compte moi-même à Moscou, et je me suis rendu compte quand j'étais allé en Lituanie, eh bien, que l'URSS n'était pas tout à fait morte. Je vais faire une confidence à vos auditeurs. Moi, je ne suis jamais allé à l'ambassade d'Ukraine. Et je n'ai à vrai dire, comme ami ukrainien, que mon excellent ami Philippe Nomiak, le chef de chapitre du pèlerinage de Chartres. Mais je vois quel est le déroulement de cette affaire. Poutine qui a envahi l'Ukraine le 24 février, alors que j'avais été quasiment seul sur les antennes de Radio Courtoisie à dire il va envahir. Et là, j'ai entendu plutôt beaucoup dire mais non, Poutine n'envahira jamais. 48 heures après, il y a eu des gens honnêtes. Certains m'ont téléphoné en disant ben, « tu avais raison ». Et d'autres, ben, ils ont avalé ça. Si Poutine envahissait l'Ukraine, c'est qu'il avait ses raisons. Et donc là, alors qu'est-ce qu'on a mis en avant? Et je sais bien, mais c'est en train de changer, j'insiste sur ça. Je sais bien que de bonnes personnes se sont dit, donc, mais voyez tout ce que nous vivons chez nous, les abominations, la culture de mort, de la GPA, etc., etc., etc. Comme si je ne savais pas cela et comme si je ne combattais pas cela aussi. Mais je pense que ce sont des gens binaires, parce que Poutine combattrait, selon eux, hein, donc certaines formes de décadence de nos civilisations, il serait le bien.
C'était le sens de ma réflexion, vous l'avez compris, Bernard Anthony.
Oui, bien sûr. Bien sûr, cher Yannis. Mais non, ça n'est pas cela. Poutine, c'est celui qui, aujourd'hui, depuis longtemps maintenant, enfin, a exalté le modèle soviétique. Il a exalté le modèle soviétique lorsque lui, le colonel du KGB, lui qui a invité les anciens du KGB à la Loubianka, à Moscou, a honoré à nouveau leur grand modèle, Dzerzhinsky, le patron de la Tchéka. Là, j'ai publié dans mon livre, d'ailleurs, un portrait de Dzerzhinsky, tel qu'aujourd'hui il est honoré, Dzerzhinsky et Staline, les deux grands modèles de Poutine. Alors, je pose une question. Pourquoi, aujourd'hui, par exemple, est-il interdit de rappeler l'histoire véritable de l'URSS, qui a d'abord conclu un pacte qui a duré pendant près de 2 ans avec l'Union soviétique, le pacte Staline-Ribbentrop. Ceci, désormais, est interdit en Russie. C'est un pays de liberté d'expression.
Un pacte avec l'Allemagne nazie, vous voulez dire, hein, vous avez dit.
Avec l'Allemagne nazie, ça a été le grand copinage des deux monstres hétérozygotes, des deux jumeaux hétérozygotes, selon l'expression du grand historien protestant Pierre Chaulnu, Hitler et Staline. Les deux, moi, je les ai toujours mis dans le même sac. Mais aujourd'hui, vous voyez, pourquoi ce besoin d'invasion? Alors, Poutine, lui, a commencé par l'invasion de l'Ossétie du Sud en Géorgie. Ensuite, on a vu la poursuite d'affrontements dans le Donbass, en Tchétchénie. Là, sur chacune de ces guerres, il y aurait à faire une critique impitoyable. Pourquoi n'y a-t-il pas, chez Poutine, recherche d'application du droit international avant de déclencher des conflits? Et puis, je vous dirais aussi, voilà pourquoi, d'ailleurs, j'enregistre tous les jours des gens qui me disent, finalement, tu n'avais pas tort. Tu n'avais pas tort parce que Poutine subit la malédiction de l'hétérotélie. La malédiction de l'hétérotélie, qu'est-ce que c'est? L'hétérotélie, c'est un grand concept travaillé par mon ami et maître Jules Monnereau, le grand sociologue qui avait été dans sa jeunesse d'ailleurs au Parti communiste, avant d'être un grand résistant, ensuite un grand gaulliste, et puis de rejoindre le Front National, où je l'ai connu au bureau politique. Monnereau parlait de l'hétérotélie, c'est-à-dire que les hommes politiques, rarement, atteignent la cible qu'ils se sont fixée. Et Poutine échoue sur toute la ligne aujourd'hui. Alors il peut certes être infiniment dangereux, provoquer peut-être, savons-nous, quelque apocalypse, mais en tout cas pour l'instant il s'est planté sur tout. Il devait envahir l'Ukraine en quelques jours, en une quinzaine, au bout de bientôt 9 mois, il ne l'a pas envahi. Il devait entraîner la dissolution de l'Union européenne, que j'ai toujours combattu, d'ailleurs, pour ma part, hein, parce que je ne suis pas un binaire, ce n'est pas parce que je ne suis pas pour Poutine que je suis pour tous ses ennemis. Il devait entraîner la décomposition de l'Union européenne, il l'a stimulé, pour l'instant en tout cas. Il devait en finir avec l'OTAN, dont Macron, que je combats aussi, dont Macron disait que c'était d'un cerveau en décomposition. Eh bien, voilà, moi je pense que sur toute la ligne, aujourd'hui, Poutine s'est trompé, et je sais, et là, je sais parce que j'ai des amis russes, et parce que j'ai des témoignages, qu'aujourd'hui, il y a une, pas encore une formidable vague, mais une forte tendance dans le grand peuple russe à dire maintenant, Poutine, ça suffit.
Alors, votre livre, Bernard Anthony, vous avez bien fait de préciser que vous connaissez mal l'Ukraine, hein, pour y être malade. Pourtant, il est remarquablement bien documenté à travers cet abécédaire. Vous rappelez cette histoire. Donc, vous avez fait un travail de journaliste d'investigation, finalement. Un travail d'historien. Voilà, vous rappelez l'Holodomor, l'extermination par la faim imposée par Staline au peuple ukrainien, dont Poutine a rétabli l'idolâtrie. Mais comment expliquez-vous que tous ces faits soient finalement occultés par nos médias ? On est toujours dans les médias institutionnels. Je ne dis pas les grands médias parce qu'on est tous des grands médias. Donc je dis les médias institutionnels. Dans les médias institutionnels, on est toujours dans l'instantanéité. Et finalement, il n'y a jamais de recul sur le passé.
C'est vrai, cher Yannick, du rien. J'aurais tendance à vous retourner la question parce que c'est pas pour vous plaire, mais vous êtes un analyste, je vous connais, un analyste subtil. Alors, ce que je sais, c'est que tout de même, aujourd'hui, tous les grands historiens du communisme, je dis bien tous les grands historiens du communisme, sont sur la même ligne catastrophée par rapport à Poutine. Je les cite. Volton, ce n'est pas rien, Volton, l'histoire mondiale du communisme en 3 volumes. Nicolas Wirth, Stéphane Courtois, bien sûr, Conteste, Michel Fouché, Michel Tchaninov, elle est morte aujourd'hui, assassinée, comme les nombreux assassinés du poutinisme, Anna Politkovskaya. Ce que j'observe donc, c'est qu'il y a un premier mensonge à démonter, c'est qu'il n'est pas vrai que tous les Russes soient derrière Poutine. Alors il y a le bon peuple qui est abusé, qui est désinformé, mais voyez-vous, surtout, je me suis insurgé contre lorsqu'il s'est agi, pour certains qui dénonçaient l'invasion de l'Ukraine, de combattre toute culture russe. Ça a été le cas, par exemple, dans ma bonne ville de Toulouse, Capitole, où l'imbécile de maire avait décidé qu'on n'inviterait plus des musiciens russes. Mais enfin, dans ma bibliothèque, au moment où je vous parle là, je vois sous mes deux yeux Solzhenitsyn, Dostoïevski, Tolstoï. Est-ce qu'on va éliminer la culture russe ? Ça, c'est le cadeau à faire à Poutine. Moi, je ne veux pas être binaire. Le binaire, c'est celui qui épouse le contraire de ce qu'il combat. Moi, je n'épouse pas le contraire de ce que je combats. Il y a donc ô combien de positifs dans l'immense culture russe, mais Poutine, aujourd'hui, est un destructeur épouvantable. Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'il avait le besoin de déclarer guerre sur guerre ? Par exemple, si on prend le cas de la Tchétchénie, j'avais hier un de vos confrères qui m'appelait sur la question de la Tchétchénie, auquel je rappelais qu'il y avait eu 2 guerres en Tchétchénie. Et la première avait été réglée, en quelque sorte, par le général Lebed, qui était un homme remarquable. Le général Lebed, donc, a combattu les islamistes tchétchènes, mais il n'a pas combattu le peuple tchétchène. Et là, donc, Poutine, ensuite, lui, il a fait une guerre d'extermination en Tchétchénie, et cela déjà n'augurait pas grand-chose de bon. Ensuite, il y a eu le cas de la Géorgie. Et il continuera comme cela. C'est pour cela que moi, je suis, et puis je n'ai pas cité tout à l'heure, les grands journalistes. Parce que j'entends dire quelquefois, ce sont tous les mêmes dans les médias occidentaux. Ben non, ce ne sont pas tous les mêmes, et vous le savez bien. Il y a de remarquables journalistes, de remarquables grands reporters qui sont allés sur le terrain. Donc, par exemple, ces femmes extraordinaires que sont Laure Mandeville. Moi, je pense que, hélas, donc là, Poutine a créé contre lui en Ukraine l'irréparable. L'irréparable parce que aujourd'hui, on voit bien cette année du comportement des Ukrainiens qui est absolument héroïque. Alors des imbéciles diront, ils reçoivent de l'armement occidental et notamment américain. Ben oui, bien sûr, heureusement, parce qu'ils seraient écrasés. Mais vous savez, le martyr de l'Ukraine, ce que Colosimo appelle la crucifixion, c'est quelque chose d'effroyable. Parce qu'enfin, est-ce que Poutine triomphe? Quand on sait les rapports de force, la Russie, c'est 27 fois grand comme l'Ukraine. La population russe, c'est 4 à 5 fois la population de l'Ukraine, qui est en plus vidée de tous ses réfugiés, de tous ses malheureux. Donc là, je pense que sur toute la ligne, Poutine échoue. Alors, plaise au ciel que autour de lui, il y ait des Russes suffisamment en position pour lui dire « arrête ». Je note aussi qu'il s'est mis à dos aujourd'hui la majorité de l'Église orthodoxe. Parce que quelquefois, on me dit « mais parce que tu es catholique, toi ?» Comme si moi, je n'avais pas combattu avec des orthodoxes pendant toute ma jeunesse. Comme si au Liban, où je suis allé si souvent, je n'allais pas trouver dans ce qu'on appelle à Beyrouth la petite Arménie. Et on pourrait parler de l'Arménie, d'ailleurs, par rapport à Poutine. Donc voilà, je pense que c'est un immense gâchis que Poutine a fait de sa grande nation.
Vous avez dit quelque chose d'important, c'est « je ne suis pas binaire ». Parlons de politique étrangère maintenant et de la position des pays. Vous avez des pays dans le monde. Je vais prendre un exemple d'actualité, Bernard Anthony, qui est le Maroc. Le Maroc est aligné sur les États-Unis, il y a d'excellentes relations depuis toujours avec les États-Unis. Le Maroc a des relations maintenant diplomatiques avec Israël, et il y a des coopérations maintenant. Et le Maroc vient de choisir pour faire construire sa centrale nucléaire la Russie. Ils ont décidé de faire appel à la Russie et pas à la France. On se doute que, évidemment, tout cela est lié, selon mes informations, parce que le Maroc est très irrité de voir toutes les courbettes faites par la France à l'Algérie. Donc ils en ont un peu marre. Mais on voit que le monde semble être divisé. Il y a très peu de pays à fond pro-Russie, pro-Poutine. Il y a aussi les pays occidentaux, ceux d'Europe que l'on connaît, qui sont vraiment pro-Ukraine et qui arment l'Ukraine. Et vous avez le reste du monde qui semble rester en spectateur et qui fait des affaires avec l'un comme avec l'autre. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors c'est peut-être, pardonnez-moi de vous le dire, c'est peut-être un peu vite dit. Alors je pense d'abord, je regarde naturellement...
Ah, ce n'est pas une affirmation, cher Bernard Anthony. Hein,
oui, j'entends bien. Mais là, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, la Pologne, les Pays-Baltes, etc., ben, il y a chez eux, depuis longtemps déjà, une angoisse qui montait devant... Donc, les avancées conquérantes de Poutine. Alors, vous me parlez du Maroc. Vous connaissez ce pays très bien, je le sais. Moi, je le connais un peu. C'est un pays que j'aime. Mais je pourrais vous parler de l'Algérie. Alors, je comprends bien qu'il y a une réalité politique. Il y a des pays qui essaient de manœuvrer dans l'état actuel de ce monde difficile. Mais s'il y a bien un pays qui est sous la botte russe quasiment aujourd'hui. Donc c'est bien l'Algérie. Ce sont les partisans kabyles. J'ai invité, je peux vous les faire rencontrer, donc les leaders du mouvement indépendantiste kabyle. Ce sont des gens tout à fait remarquables. Eh bien ces gens tout à fait remarquables, ils voient bien que ils sont, persécutés en Algérie, ils sont très menacés même, donc par les services algériens qui sont contrôlés par les services russes. Alors donc, je pense qu'il faut faire des analyses, il faudrait faire des analyses plus fines, comment dirais-je. Mais voyez-vous, parmi les gens qui me disent aujourd'hui, tu avais raison, il y a des officiers français. Ces officiers français, eh bien, dont certains j'oublierai volontiers Poutine, qui d'ailleurs disait, vous allez voir, cette armée russe, elle ne va faire qu'une bouchée de la malheureuse armée ukrainienne. Ouais, on voit. Enfin, peut-être que la malheureuse armée ukrainienne s'effondrera un jour. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, ces officiers, ils voient comment procède la Russie en Afrique, qui se conduit aujourd'hui en ennemi de la France. On a vu l'abominable montage de la base de Gossi où des soldats, enfin des combattants du groupe Wagner de Prigogine organisaient un charnier pour imputer cette abomination à l'armée française. Heureusement que dans l'armée française, tous nos, tous les dirigeants ne sont pas complètement idiots. Un drone a filmé tout cela. Et on a bien vu quelle était cette manœuvre ignoble de l'armée wagnérienne, si je puis dire, pour discréditer la France. Et là, je dois dire que deux ou trois généraux avec lesquels, quelquefois, je m'entretiens, eh ben, ils en ont eu là un haut le cœur. Et ils se sont dit, tiens, c'est tout de même pas des gens très, très fair-play. Voilà. Donc, je crois que vous avez...
Oui. En Afrique, les gens de Wagner se comportent comme des soudards. Hein. Jamais les Français ne se sont comportés ainsi.
Et oui. Et en l'occurrence, là, vous vous rendez compte, aller faire un massacre sur je ne sais plus quel marché du Mali, ramener les cadavres, installer ces cadavres à quelques kilomètres de la base que l'on venait d'évacuer de Gossi. Et ce montage-là est absolument ignoble. Et donc aujourd'hui, que Poutine en soit réduit, donc à faire venir Wagner, hein, c'est pas le musicien, Wagner de Prigogine, ces soudards, comme vous dites, ces violeurs, ces massacreurs, en Ukraine, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire et je n'arrive pas à comprendre, là je dois dire, j'arrive pas à comprendre que certains soient encore une fois je dis de moins en moins, fascinés par la brutalité de l'armée russe. Là on remonte au fond aux pires aspects de la collaboration qui est souvent une fascination malsaine pour la puissance. Donc voilà.
Pour la puissance. Alors, sur le plan psychologique ou sur le plan psychiatrique même, on va dire sur le plan psychologique, on va être gentil, Bernard Anthony. Je rappelle que vous publiez l'Ukraine face à Poutine, réplique à la désinformation du néo-stalinisme. Est-ce que.
Alors,
vous dites...
qui peut être commandé au prix de 20 euros.
Oui, chez Reconquête. On va mettre le lien sur le site internet.
Ah bon, très bien.
On va mettre le lien. 70 boulevard Saint-Germain. On peut également le trouver sur la plupart des librairies en ligne. Quand on tape sur Internet Bernard Anthony, l'Ukraine face à Poutine, on arrive à trouver différents sites de vente en ligne. On va mettre le lien. Je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas une explication là-dedans? C'est l'ennemi de ton ennemi devient mon ami dans la tête de beaucoup de gens. Et c'est ce qui explique, parce que moi je suis très frappé. Imaginons qu'on soit en guerre, imaginons qu'on ait vraiment un gros conflit contre la Corée du Nord ou contre l'Afghanistan. Je pense que 99,9% de la population serait soudée contre la Corée du Nord ou contre l'Afghanistan. Mais sur la Russie, c'est pas le cas. Et les gens
vous
disent, on est malheureux en France, ils viennent nous donner des leçons de morale, on nous a confinés, on nous a obligés sur le vaccin, on nous a ceci, on nous a cela.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc finalement, l'autre, hein, qui se démerde entre eux. Voilà, c'est ce que j'entends.
Oui, je constate...
Que leur dites-vous?
Je constate ce phénomène comme vous, sur la question des vaccins, par exemple. Voilà, j'ai noté qu'un certain nombre de militants anti-vaccins, justement exaspérés par ce que j'ai appelé la vaccinocratie macronienne, donc épousaient tout d'un coup la cause russe, imaginant qu'on n'imposait pas les vaccins en Russie, mais ils sont ils sont pas informés, parce que le patriarche Kirill, le grand support, ou suppos, j'allais dire, théologiste de Poutine, lui a dit que si on ne se faisait pas vacciner avec les vaccins russes, bien sûr, on irait en enfer. De toute façon, avec le patriarche Kirill, si on n'est pas poutiniste ou poutinolâtre comme lui à 100%, on va toujours en enfer. Voilà. Mais vous avez raison. Hein. Donc, parce que un certain nombre de nos compatriotes sont exaspérés par certains aspects de la politique macronienne et du libéral-socialisme en général, eh bien, ils croient, ils se figurent que, mais enfin, qu'ils aillent en Russie, je les adjure d'aller en Russie. Ils verront s'ils s'y trouvent si bien. Voilà. Donc, il faut refuser le binarisme. C'est une formule que j'emploie. Elle est plus ou moins bonne, je ne sais. Mais en tout cas, il faut refuser ce binarisme qui nous conduirait à penser que parce que tout n'est pas bon chez nous, tout serait parfait chez Monsieur Poutine. Or, tout n'est pas mauvais non plus chez nous, et je crains hélas que pour les Russes, essentiellement, il y ait beaucoup de mauvais dans le régime de M. Poutine.
Pourquoi a-t-on oublié tous ces combats pour la liberté qui ont forgé des générations entières depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le mur de Berlin, et tout cela semble être mis à perte et profit?
Ah, je ne sais pas, je ne sais pas tout, et volontiers, j'aimerais vous entendre aussi sur la question, parce que je pense que il s'est introduit dans notre peuple, et pas seulement dans notre peuple, comme un sentiment de, comment dirais-je, de décadence. C'est comme vous le dites très bien, le phénomène n'est pas politique, n'est pas seulement politique, il est principalement psychologique et même psychiatrique. Vous avez employé le mot, et c'est le mot que j'emploie bien volontiers. Il y a une fascination pour la puissance, pour la force. Oh, ce n'est pas nouveau, cela. Déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Charles Le Maurras, donc, attaquer les collabos, entre guillemets, pour leur fascination de mauvais aloi. Maurras faisait finalement de la psychanalyse, leur fascination de mauvais aloi pour la puissance germanique, pour les SS, etc. Là, je pense qu'il y a eu, pour cette vaillante armée rouge idéalisée, idolâtrée, donc ce réflexe, et je n'ai pas d'autre explication, mais j'adhère totalement au mot que vous avez employé.
Vous avez publié, Bernard Anthony, un autre livre, Le Parti communiste et ses virus mutants, depuis le congrès de Tours, un siècle de mensonges, de crimes et de trahisons. Vous parlez évidemment du Parti communiste français, mais est-ce que finalement cette attirance pour Poutine est un virus mutant de tout cela?
Oui, je crois. Je crois qu'il y a de cela. Je ne suis pas sûr que ce virus va continuer tout de même à se répandre, mais cela est vrai. Je pense que il y a d'abord, et vous voyez ce qui se passe à Pékin aujourd'hui, il faudrait le commenter donc à l'occasion de notre entretien. Mais voyez-vous, cette énorme puissance, ça ne date pas hier, la fascination pour la force russe d'ailleurs. J'ai dit tout à l'heure combien j'admirais la culture russe, la grande culture russe, mais par exemple, cette fascination pour la Russie nous a valu en grande partie la Première Guerre mondiale. Et là, je voudrais mettre en avant deux hommes qui se combattaient allègrement, mais dont aucun des deux n'était nul, c'est-à-dire le grand historien de l'action française, Jacques Bainville, mais aussi Jean Jaurès, sur lequel j'ai écrit un livre. Jean Jaurès, c'est mon compatriote tarné, là où je vous parle. Jean Jaurès voyait avec effroi venir cette confiance dans la force de l'immense armée russe à l'époque. On sait comment cela s'est terminé. Hein? Je pense que on aurait mieux fait. Jaurès était un socialiste, je l'aurais combattu sur bien des plans, mais il était aussi un homme de raison, un patriote, et il a fait des analyses qui n'étaient pas inexactes. On retrouve là des constantes dans l'histoire, et je crois que, alors je lis aussi tout de même les meilleurs cerveaux de notre, comment dirais-je, de nos analystes de la Russie. Je parle d'ailleurs de mon ami Bruno Fanucchi aussi, qui est un grand spécialiste, il a fait au moins 40 séjours en Russie. Je parle de Isabelle Lasserre, qui donne souvent dans les pages débat du Figaro. Beaucoup de bons esprits se rejoignent sur ce phénomène donc de fascination. Et puis, il faut parler, je voudrais leur tirer mon chapeau, des opposants à Poutine en Russie, et notamment donc d'Alexei Gorinov, élu moscovite, qui juste au bout s'est battu avant d'être enfermé, bien sûr du géant qui est Alexandre Navalny. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des Russes héroïques qui font tout ce qu'ils peuvent pour que leur grand pays, que leur pays qui a été par moments si héroïque, donc ne tombe pas dans une nouvelle catastrophe.
J'ai une dernière question, réflexion aussi, puisque vous m'avez à un moment interrogé, Bernard Anthony, et j'ai pensé à cela. Est-ce que finalement, la force stratégique de ces gens-là a été de déconnecter la question des libertés individuelles de la question de l'économie de marché ? Le communisme était un tout, ça englobait l'atteinte aux libertés, l'absence de libertés individuelles et l'absence d'économie de marché. Maintenant, on a vu se reproduire ce communisme qui, comme ce communisme a laissé un semblant d'économie de marché, avec un semblant d'économie de marché, même si les grands groupes sont contrôlés par des oligarques. Mais enfin, on va dire que vous voulez ouvrir votre petit magasin à Moscou, vous avez votre propriété privée, comme en Chine. Mais on a gardé la restriction des libertés individuelles. Et en fait, on ne pense plus à cela, à cette question des libertés individuelles. Comme il y a cette façade d'économie de marché, on ne les classe plus dans le danger du communisme. Est-ce que c'est l'erreur que l'on peut faire aussi ?
Ah ben, je crois que vous situez très bien cette erreur, hein, parce que il y avait, comment dirais-je, a prévalu une conception du communisme totalement déconnectée de sa réalité. Le communisme aujourd'hui, principalement, c'est la Chine, avec 100 milliards, 400 millions d'habitants, avec son formidable budget militaire et avec son totalitarisme en un mot. Donc là, je crois que c'était des gens de courte vue qui pensaient que parce que l'on pouvait vendre un certain nombre de choses sur tous les marchés de Shanghai ou de Pékin et autres villes, donc le danger communiste s'estompait. Eh bien non, hein, le communisme, ça ne se ramène pas à la simple interdiction d'un certain nombre de choses, mais c'est un ensemble totalitaire, et je ne vois rien, surtout avec Xi Jinping aujourd'hui, qui ait pu, qui pourrait entamer cette vision des choses. Et je crains fort que cet immense ensemble qui est constitué aujourd'hui par la Russie et par la Chine, et ajoutons bien sûr la Corée et autres pays communistes, donc cet immense ensemble, eh bien, il est le plus grand danger qui est pesé sur l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, bien sûr, les Chinois ne sont pas aussi imprudents que Poutine. Poutine les énerve un peu, on l'a bien vu, parce que, dont il prononce des mots, il brandit la menace nucléaire, etc. Les Chinois sont gens avisés, ce sont des commerçants. Ils veulent continuer à commercer. Mais là, donc, que se passera-t-il ? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, pour l'instant en tout cas, même s'il y a un peu de bouderie du côté chinois, il n'y a pas grande opposition montante entre la Chine et la Russie. Mais je sais que c'est la Chine qui bouffera la Russie parce que Poutine fait une politique imprudente, non seulement en Europe, mais aussi dans l'Extrême-Orient.
Et suicidaire pour son pays.
Et suicidaire pour son pays.
Merci Bernard Anthony. Encore une fois, c'était un entretien passionnant. C'était un véritable honneur d'être avec vous, nous avoir accordé cet entretien. Bernard Anthony, merci. Vous êtes le
merci
président,
beaucoup.
Le fondateur de l'AGRIF, l'Alliance Générale pour la
qui
Défense.
Qui vient d'obtenir un beau succès encore aujourd'hui.
Un succès devant les tribunaux, vous voulez dire, hein. Vous avez
oui,
gagné
oui, oui,
encore
absolument.
Un procès. Oui, voilà, on peut retrouver toutes ces infos sur le site de l'AGRIF. Vous avez été député européen au Front National, hein, à une époque, membre du bureau politique du Front National, président de l'AGRIF. Bernard Anthony, merci encore pour cet entretien, de nous avoir parlé de vos livres, notamment « L'Ukraine face à Poutine, réplique à la désinformation du néo-stalinisme ».
Cher Yannick Urien, merci et merci à vos auditeurs.